Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier numéro du débat politique de Radio Ndeke Luka du mois de novembre 2022. Trois grands sujets retiendront notre attention dans l'émission d'aujourd'hui. De prime abord, l'opposition demande la rénovation profonde de l'autorité nationale des élections, l'ANE, avant son adhésion aux élections locales à venir. Nous allons évoquer aussi au cours de ce débat la baisse du budget à 240 milliards de francs CFA pour l'année 2023. Enfin, les crimes ciblés contre les conducteurs de taxi-moto où on dénombre 24 tués en l'espace de 3 semaines, rien que dans la capitale Bangui. Question: avec ce budget, le gouvernement sera-t-il en mesure de construire les routes, les écoles, les hôpitaux et j'en passe? Va-t-on vers un boycott des élections locales du 16 juillet 2023 par l'opposition démocratique qui a exigé des autorités la réforme profonde de l'ANE, organe chargé des élections? Et le regain de l'insécurité à Bangui et dans certaines localités du pays ces 2 derniers mois, que fait concrètement le gouvernement Mouloua pour y mettre fin? Eh bien, c'est là l'ossature du débat politique d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'y reçois Joseph Bindunga. Bonjour.
Bonjour Armando.
Député de Bimbo 3 et président du mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de Centrafrique MDRC, membre de l'opposition démocratique, et Aristide Briand-Riboise. Bonjour.
Bonjour Armando. Bonjour à tous les auditeurs d'Ndeke Luka.
Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, président du Parti chrétien démocrate PCD. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Voudriez-vous bien vous adresser les civilités et nous dire pourquoi vous deux avez accepté de débattre sur les sujets d'actualité? D'abord, vos motivations. Je commence par vous, monsieur le député.
Eh bien, c'est un réel plaisir d'échanger avec le ministre Riboise. Et je profiterai aussi de cette occasion parce que c'est depuis longtemps que je voulais l'avoir à l'autre bout du micro, surtout par rapport à la dénomination de son parti politique, le Parti démocrate chrétien, qui ne correspond pas aux réalités de la République centrafricaine, et que je voulais saisir la Cour constitutionnelle pour déclarer ce nom-là inconstitutionnel, et je souhaiterais en discuter avec
lui. Et pour quelle raison?
Eh bien, écoutez, plus les partis en République centrafricaine, nous, c'est un État laïque. On ne peut pas mélanger la religion avec l'État. Et lorsqu'un parti se dit démocrate chrétien, alors que c'est un État laïque, donc il y a quelque chose qui cloche, parce que n'importe qui peut créer un parti politique à connotation religieuse. Donc la laïcité aura perdu sa place, et l'indépendance il faut aller un peu en amont, voir si demain, quelqu'un ne peut pas créer un parti islamique en République centrafricaine.
Monsieur Riboise, vos civilités et pourquoi vous avez aussi accepté de débattre sur les sujets d'actualité d'aujourd'hui avec monsieur le député de Bimbo 3, Joseph Bindunga.
Merci beaucoup. J'ai accepté parce que je suis dans mon rôle pour faire de la pédagogie. Expliquer les actions du gouvernement, défendre le gouvernement, et que voilà, c'est pour ça. Et je vais aussi en profiter pour répondre à Bindunga, puisque ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, mais c'est ça la magie du débat. Le Parti chrétien démocrate ne peut pas être attaqué. Je sais que M. Bindunga, en disant cela, pour moi, c'est un degré zéro de la connaissance, effectivement, du fonctionnement de l'État laïque. Parce que le Parti chrétien démocrate, c'est un parti qui existe. Il y a au moins plus de 156 partis chrétiens démocrates dans le monde, et je fais partie de l'International Parti chrétien démocrate. En Allemagne, le Parti chrétien démocrate a existé. Il y en a même 2 là-bas. Il y a CDU, CSU, et ceux-là, c'est pour apporter, effectivement, c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que l'idée le Parti chrétien démocrate a germé, effectivement, pour amener le social dans la politique. Et je vis dans un pays qui a subi des crises sociales et politiques. Et si on suit bien ma prise de position et le programme, le contenu de mon programme, vous allez comprendre que la laïcité est garantie, et cela ne fait du mal à personne. Donc, au besoin, on pourra rentrer dans les détails.
Non, ben, je pense que le Parti démocrate allemand, tout ça, mais nous, en République centrafricaine, c'est inscrit dans leur constitution. Mais chez nous, c'est un État laïque. Donc, il y a vice et je saisirai la Cour constitutionnelle.
Oui, vous allez, ce moment, on va en parler.
Merci. Voilà, nous allons boucler ce petit chapitre. Abordons à présent le premier point. L'opposition démocratique exige du gouvernement la réforme profonde de l'autorité nationale des élections, l'ANE, avant qu'elle ne puisse participer aux échéances local du mois de juillet 2023. Monsieur Bendunga, vous préoccupez du énième report des élections municipales et vous fustigez en même temps le président de l'ANE de ne pas dire la vérité, selon vous, sur les raisons de cet ajournement. À quel niveau, par exemple?
Écoutez, comme tout le monde le sait, les élections municipales devraient se tenir le 1er septembre 2022. L'État n'a pas mis les sous et l'ANE, qui n'avait que la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a, l'ANE a eu à faire le démembrement. L'ANE a fait le démembrement et l'ANE s'est retrouvée après sans argent pour pouvoir continuer. Et l'ANE a décalé les élections, espérant avoir cet argent-là pour que les élections se tiennent le 22 janvier 2023. Force est de constater aujourd'hui que l'ANE a encore reporter ces élections-là au mois de juillet 2023. Au lieu de dire la vérité aux gens, M. Mourouba a voulu un peu essayer en même temps de satisfaire le régime Touadéra et de l'autre côté satisfaire la population et ne pas dire la vérité, c'est qu'on n'a pas mis l'argent qu'il fallait pour que les élections se tiennent à bonne date et nous sommes au troisième report et qui ne dira pas le quatrième report.
Oui, et donc pour ce qui se fait aujourd'hui, selon vos investigations et vous êtes député, est-ce que le gouvernement a pu donner sa part?
Ben, nous venons d'apprendre par la bouche de Monsieur Mourouba que le gouvernement a mis de l'argent et cet argent-là, est-ce qu'il est déjà dans la caisse de l'ANE? Je ne sais pas. Et après l'autre là, le démembrement, qu'est-ce qu'on va faire après ça? La révision de liste électorale, il y a pas mal d'opérations qui doivent suivre et ces opérations-là, si l'ANE reçoit l'argent à bonne date, eh bien, elle pourra faire ce qu'elle peut faire, mais sinon, attendons-nous, s'il y a déjà, il n'y a pas 203, et s'il y a 3, on aura un quatrième report.
Oui, M. Rebois, sur cette question de l'exigence même de l'opposition démocratique, mais le report aussi de ces élections locales au 16 juillet 2023, est-ce que le gouvernement a pu injecter ce qu'il doit verser à l'ANE?
Ça, c'est ce que le député Bendunga dit, c'est une chanson qu'on a l'habitude d'écouter à l'approche des organisations des élections. Il faudrait que le gouvernement soit attaqué de dysfonctionnement, l'organe l'ANE soit sur lui, il faut jeter toutes sortes de discrédits, mais je tiens tout simplement ici et là rappeler deux choses. L'ANE, c'est une institution qui fonctionne très bien. Mourouba aujourd'hui qui fait l'objet de critiques, c'est lui qui a organisé les élections, qui a permis à Bendunga d'être député aujourd'hui, permis aux autres partis d'opposition qui sont aujourd'hui élus, d'être élus à l'Assemblée nationale et ainsi qu'au président de la République. Donc pour moi, les restes sont des faux débats parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur une présomption, simple présomption. Maintenant, s'agissant de financement, effectivement, nous traversons une période. Il y a la tension des trésoreries, il y a des crises, il y a des ruptures, par exemple, de l'aide, etc. Ce qui nous permet d'abord à nos gouvernements de mener la guerre que nous menons totale contre la pauvreté, pour économie, etc., en comptant sur la mobilisation des ressources, effectivement, locales. Moi, j'ai eu l'occasion un jour d'aller en Algérie où j'étais l'un des observateurs des élections. On était partis. Un jour, je voyais des urnes noires, totalement noires. Et c'est là où j'ai posé la question. Il y avait même avec moi un ancien député. Et donc, nous avons posé la question. Je dis, mais on n'a jamais vu ça, l'urne noire, etc. C'est à ce moment, les Algériens m'ont dit non. Vous organisez les élections avec les moyens des autres, vous aurez à rendre compte aux autres. Apprenez à organiser les élections. C'est la marque de l'indépendance avec les moyens de bord. Et donc, nous sommes en train de, étape par étape, fournir ce qu'il faut à l'ANE pour d'abord commencer par constituer la liste. Au fur et à mesure, nous allons financer. Et donc, c'est une guerre que nous menons, pas avec les moyens que nous espérons avoir, mais avec les moyens de bord. Et donc, ça va être sur le budget de l'État, mais il faut comprendre que il y a des priorités, ça fait aussi partie des priorités, mais nous allons mobiliser le moyen étape par étape.
Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette conjoncture financière qui pose problème au niveau du gouvernement pour financer rapidement.
Je dis, c'est un problème de méthode. Je dis que le gouvernement doit déjà, un, commencer par financer la liste électorale, la remise au niveau des listes, et c'est ce qui va se faire. Et donc, étape par étape, même si nous attachons l'intérêt à l'indépendance, par exemple, de l'ANE, cela consiste aussi à leur laisser le choix de choisir le temps, la date, etc. Et c'est comme ça, pour moi, c'est l'attribut de l'indépendance que nous voulons tous, mais nous voulons dicter des choses à l'ANE, qui est l'organe technique qui devrait, en toute autonomie, toute indépendance, poser les actes liés au calendrier et à la manière d'organisation.
On va écouter, oui, monsieur le député.
Oui, monsieur Reboise vient de dire que Moruba a bien organisé les élections, c'est ainsi que je suis devenu député. Vous savez, ça a été très mal organisé et nous avons pris des dispositions dans Bimbo 3 pour éviter à monsieur Moruba de faire ce qu'il a fait pour certaines circonscriptions, raison pour laquelle j'ai été élu.
Quelle
avec...
disposition
oui,
vous avez
oui, mais et je suis sur le terrain, je suis un homme de terrain.
Oui, mais
je ne suis pas un aventurier. Les mesures, c'est éviter. D'abord, vous savez, il y a eu des procès à Bimbo et les responsables de l'ANE de Bimbo, certains ont eu des ennuis juridiques.
Mais il y a eu plusieurs contentieux, monsieur, attendez,
ne me coupez pas. Je vous ai laissé le temps de parler et laissez-moi le temps de parler.
Parlez, monsieur.
Parce que je n'accepterai pas que vous puissiez me prendre pour un garçon de salle.
Calmez-vous.
D'accord, je
venez sur les points que vous êtes.
Donc, laissez-moi. Laissez-moi.
Mais je vous le dis concrètement. Parce que moi, je l'ai vécu sur le terrain.
Voilà.
Donc, nous avons pris des dispositions qui n'ont pas permis aux agents placés par Moruba de pouvoir mettre du désordre. Et c'est ainsi que j'ai gagné avec un taux de 4. Non mais écoutez, vous n'êtes pas là à me juger. Vous n'êtes pas là à juger mes dires. Je ne suis pas votre garçon de course. Je continue. Vous avez dit que le gouvernement continue à mobiliser de l'argent. Je pense que pour des élections, pour permettre à la République centrafricaine d'organiser les élections, et surtout à bonne date, il faut créer une cagnotte dans laquelle, pendant l'année, on y met de l'argent. Cela permet à l'ANE d'avoir une autonomie financière afin de lui permettre de faire son travail comme cela doit se faire. Pour le cas de la République centrafricaine, on traîne, c'est chaque fois, l'ANE vient se mettre en position de mendiant, commander de l'argent, et à partir de ce moment, le gouvernement, eh bien, puisque je suis d'accord pour qu'il y ait les élections, je vous mets X millions dans la cagnotte, ainsi de suite. Je pense que nous ne pouvons pas organiser perpétuellement les élections en attendant l'aide de l'extérieur, mais en créant un mécanisme sur place où chaque mois, le Trésor verse de l'argent à l'ANE, ou si on le veut trimestriellement, c'est...
On a beaucoup de sujets, on a beaucoup de sujets à aborder.
Je finis.
30 secondes.
On dit qu'en Algérie, on a organisé des élections dans des urnes noires. Il est allé là-bas apprendre à organiser des élections dans l'obscurité. Mais nous lui dirons que nous sommes en République centrafricaine. Nous avons pas mal d'expérience en matière électorale. Et la République centrafricaine, par rapport à l'Algérie, nous avons une longueur d'avance en matière de démocratie.
La contribution financière du gouvernement pour ces élections locales a encore un gap colossal à combler. Est-ce que le pouvoir a vraiment la volonté d'organiser ces scrutins et surtout dans une transparence comme l'a réclamé l'opposition, monsieur Reboise?
Je n'ai pas bien saisi.
Je répète pour vous, est-ce que le pouvoir aujourd'hui a la volonté de booster les choses pour que les élections locales puissent être organisées en date précise?
Oui, la volonté du gouvernement reste intact. Nous sommes animés par la volonté d'aller vers ces élections locales. Parce que d'abord, pour nous, ça va nous apporter beaucoup. Oui, par exemple, si on passe par ces élections, ça va aussi permettre de responsabiliser les maires, impliquer aussi les collectivités locales et territoriales dans la gestion des affaires publiques avec une responsabilité bien établie. Donc pour nous, le gouvernement, aujourd'hui, est en action, s'attelle à faire le travail et que nous sommes ouverts effectivement à toutes les propositions. L'ANE est là, s'il y a des difficultés, s'il y a des suggestions, je pense qu'il faudrait se rapprocher effectivement des services concernés à cet effet pour essayer de contribuer. Donc dire que nous sommes effectivement, vous pensez de la démocratie, c'est pour exprimer la totale liberté dans la démocratie, cela passe aussi par une autonomisation en matière de financement des activités comme les élections. C'est quand même important. C'est pour cela que j'ai cité l'exemple d'Algérie qui m'ont dit que depuis des années, il n'y a que eux qui organisent leurs élections avec leurs moyens de bord. C'est vrai que l'Algérie a eu des hauts et des bas, mais à un moment donné, la stabilité est revenue. En République centrafricaine, chaque 10 ans, chaque quelques temps, nous avons des hommes politiques, effectivement, irresponsables, qui poussent, qui sont dans le déni, et qui multiplient, c'est pas en multipliant deux fois des dénis de réalité ou des mensonges 10 000 fois, et que cela devienne la réalité. Je tiens aussi à souligner aux auditeurs que j'attends toujours les mesures que M. Bendonga a prises dans sa circonscription. Je n'ai pas encore écouté cette mesure et comment cela s'est organisé parallèlement à l'ANE. Je voudrais absolument savoir ça avant de continuer le débat parce qu'on ne peut pas amener toujours le peuple dans le flou sans pour autant dire les choses concrètement.
Monsieur Bendonga, vous reprenez la parole, Monsieur Bendonga, sur la volonté du pouvoir et surtout la réforme de l'autorité nationale des élections avant les échéances prochaines.
D'abord, je voulais dire à M. Reboise que la population de Bimbo 3 s'est levée comme un seul homme, comme une seule femme, pour pouvoir barrer la route aux stratégies mises en place pour pouvoir frauder dans Bimbo 3. Et j'étais l'un des 26 candidats qui a concouru à Bimbo 3. Oui. Et j'ai battu son parti. J'ai battu Touadéra à Bimbo 3.
J'avais pas donc, présenté un candidat donc, dans Bimbo 3.
Oui, mais aujourd'hui, vous êtes du camp de Touadéra, non?
Non.
Votre parti n'existe même pas sur l'échiquier.
Un parti existe par la qualité de son leader.
Et la qualité du leader que je suis, mais vous n'êtes rien par comparer à Bendonga. C'est ma réponse à sa question.
Donc, sur ma question de réforme de l'autorité nationale des élections.
La réforme de l'autorité nationale des élections est obligatoire. Vous savez, nous avons constaté beaucoup de choses à la sortie des élections de 2020. Et si aujourd'hui d'aventure, nous continuons avec Moruba est en même temps président d'un parti politique. Vous voyez, la personne qui doit chapeauter cette organisation doit d'abord avoir une certaine neutralité. Il y a ce minimum. Moruba aujourd'hui est la 5e roue de la galaxie Touadéra. Comme lui, 5e roue de la galaxie Touadéra. Donc comment voulez-vous qu'on puisse avoir des élections crédibles encore avec ce monsieur qui, à mon humble avis, doit s'occuper de son parti?
Et pour vous, c'est une obligation. C'est une exigence.
Oui, c'est...
Quelques secondes.
C'est une exigence. Et je reviens sur ce que Martin a dit. Je pense que
moi, Martin Ziguele.
Oui, ce que Martin Ziguele avait dit. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que nous n'irons pas aux élections tant que Moruba ne sera pas relevé. Si Touadéra veut que les élections soient libres et transparentes et crédibles, qu'il le fasse. S'il refuse, on y va et nous ferons tout pour mettre en échec la stratégie que Moruba mettra en place.
Vous avez 1 minute 15 secondes comme M. Bendonga sur la question de réforme de l'autorité nationale des élections avant la tenue des échéances prochaines.
Le gouvernement est dans les réformes. S'il faut voir, sur tous les plans, nous faisons des réformes. Mais l'ANE, la Constitution, lui donne le droit effectivement d'organiser les élections et de publier le résultat. À la fin, c'est la Cour constitutionnelle qui dit qui a gagné ou qui a perdu. Donc là, aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité. Parce que si les réformes que nous demandons visent d'une manière habile à demander le départ du président de l'ANE, pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Vous voyez? Et donc, pour moi, ce débat ne devrait même pas avoir lieu. On ne devrait même pas parler de temps de perdre le temps autour d'un débat de quelque chose qui pour moi ne représente pas grand-chose. Il est président d'un parti, comme il a dit. Aujourd'hui, même sa neutralité qui a été mise en cause, mais c'est avec ça que Bendonga a été élu président, déclaré vainqueur.
Mais on a mis des mécanismes en place pour l'empêcher de frauder dans ma circonscription.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien dit sur le mécanisme.
Messieurs, nous avons contrecarré.
Vous l'avez déjà évoqué. Voilà. Je vous invite tous. Je suis désolé, le temps fait défaut.
Je conclue par seulement. Seconde. Non, je tiens à dire que M. Bendonga dit qu'il est différent de moi. Il est, je ne sais pas, mais dans ma vie, je n'ai jamais pensé un jour à lui ressembler ni à faire comme lui. Quelqu'un qui passe depuis 40 ans à dire des choses, il est inaudible, rien n'avance pour lui. Il pense que moi, je suis là, j'ai un exemple à suivre et mon exemple, c'est le président Touadéra.
Voilà.
Mais c'est ça mon exemple.
Vous savez, l'exemple que vous suivez, M. Touadéra, c'est un homme très incompétent. Non. Très très incompétent.
Il est 10 000 fois plus compétent que vous.
Incompétent.
C'est pas sur ce point que les Centrafricains souhaitent vous écouter. Monsieur Reboise, Monsieur Bendonga, je vous coupe.
C'est de mettre gouvernement pour faire les louanges de quelqu'un qui est incompétent.
Monsieur Bendonga, Monsieur Reboise,
grand président, incapable de gérer ce pays.
On coupe ici, et puis. Qu'on respecte la police du débat. D'accord. Abordons le second chapitre du débat aujourd'hui qui est consacré aux difficultés financières que vit le gouvernement. Et d'ailleurs, cela se voit à travers la baisse considérable du budget pour l'exercice 2023 à hauteur de 240 milliards de francs CFA. Avec ce montant, est-ce que le gouvernement peut tenir ses promesses pour espérer le respect du délai des élections municipales du 16 juillet prochain? Monsieur Reboise, vous reprenez la parole.
Je pense que c'est la même question que vous posez.
Oui, mais on revient sur la question du financement. Et vu le budget actuellement, nous voudrions avoir des précisions nos auditeurs.
Vous savez, il faut dire les choses clairement. Nous n'avons pas peur. Nous avons les moyens de bord. Le budget, effectivement, c'est à nous d'adapter. Nous avons travaillé dans le séminaire gouvernemental. Nous avons identifié beaucoup de niches fiscales. Il y a des efforts qui sont faits pour mobiliser les ressources. Il y aura la différence qui nous manque, effectivement, sera octroyée par la mobilisation des ressources domestiques et on travaille. Aujourd'hui, nous mettons en place une dimension, une pratique de diplomatie économique et commerciale qui apporte des solutions crédibles pour l'économie de notre pays. Il n'y a pas de souci à faire. Nous allons travailler, les activités vont être menées, nous sommes aux affaires, nous allons toujours continuer dans l'intérêt de la population de Bimbo 3 comme nous avons toujours fait, nous allons le faire et dans l'intérêt de toute la population centrafricaine.
Avec 240 milliards de francs CFA pour l'exercice 2023, Monsieur Bendonga, au regard des chantiers qui se dressent devant le gouvernement, à savoir construction des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Et avec un budget comme vous l'avez su, le gouvernement peut-il prétendre être ambitieux?
Je souhaiterais que M. Reboise puisse ne pas être une grenouille qui, voyant le bœuf, voulait avoir la taille du bœuf et qui va éclater.
Ça n'arrivera pas.
Attendez, souffrez que je parle.
Oui.
Je vous ai laissé parler et je ne vous ai pas coupé. Je suis député de la Nation, je suis membre de la Commission Finance. Ce budget-là pose problème à la République centrafricaine. On ne peut pas financer un État par des emprunts, par des dettes, en attendant d'avoir des financements venus d'ailleurs. La République centrafricaine aujourd'hui est en difficulté. La République centrafricaine est en difficulté et le ministre des Finances lui-même a pu constater cela. Et il a eu à dire, si on n'arrive pas, je voulais parler le plus simplement possible afin que le citoyen centrafricain lambda puisse comprendre cela. Si on n'arrive pas à serrer les ceintures, la République centrafricaine aura des difficultés à partir de la nouvelle année pour pouvoir subvenir à ses charges de souveraineté. Qu'est-ce que le ministre des Finances, l'argentier de la République centrafricaine, a voulu dire? L'argentier a compris que il n'y a pas d'argent dans la caisse, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas suffisamment, on n'arrive pas à suffisamment mobiliser de l'argent pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Et si cela continue, ce sera la banqueroute.
l'État ne peut pas payer les salaires, l'État ne peut pas subvenir aux besoins du peuple centrafricain. Quant à ce qui concerne les investissements, pratiquement avec 240 milliards, qu'est-ce que vous allez faire comme investissement? Ça, c'est même pas le budget d'un village quelque part sous d'autres cieux. Et si en République centrafricaine, j'entends un ministre de la République qui est vraiment satisfait et qu'il va mobiliser du vide pour remplir un bidon, ben cela me fait rire.
Monsieur Reboisse. Jugez-nous au résultat. Je ne suis pas là pour spéculer sur le budget. Je dis que nous menons une guerre totale contre la pauvreté pour le développement de notre pays et nous faisons avec les moyens de bord. Nous ne pouvons pas faire ça avec les moyens que nous espérons. Nous sommes dans une situation crisogène globale et mondiale. Et que le monde est finalement ultra interconnecté. Quand il y a un petit désordre ou il y a un frein quelque part, cela aura de l'impact sur notre pays. Et c'est ce que j'appelle des causes exogènes aux difficultés que nous avons. Le Covid est passé, il y a la guerre effectivement en Ukraine, etc. Cela implique qu'il y a les spéculations un peu partout. Mais nous, en face de ça, nous devons nous lever pour dire que qu'est-ce que nous faisons avec le peu que nous avons. Si avec le peu que nous avons, nous faisons bien les choses, nous allons finir par... Vous savez, tout est d'avoir le projet. Si tu n'as pas le projet...
Plus de 50% de ce budget, la mobilisation, c'est à l'extérieur.
Je vous dis qu'aujourd'hui, nous mobilisons des ressources domestiques. Deuxièmement, nous créons de l'environnement. Vous savez, l'investissement, il faudrait que ça soit garanti par un environnement sécurisé. Nous, aujourd'hui, nous avons procédé à la reconquête de notre territoire. Nous avons des partenaires avec qui nous discutons. Nous avons des orientations économiques et claires qui nous permettent d'avoir des retours sur investissement. Et donc, il faudrait changer le schéma que nous avons toujours appliqué depuis 30 ans. Et c'est normal que les gens comme, l'honorable...
Je suis député, non honorable. C'est le peuple centrafricain qui est honorable.
Peu importe, c'est la même chose.
C'est pas la même chose.
Bon, bref, hein, les députés qui sont nés et grandis dans un schéma de développement économique traditionnel ne puissent pas envisager autre chose. Nous sommes dans le processus de développement, il y a l'aspect administratif, politique et stratégique. Et là, nous mettons tout ça en place pour avancer. Mais c'est normal, c'est pas votre école, vous ne pouvez pas comprendre. Prenez
vous
note.
Êtes,
après,
vous,
je peux vous donner
vous
encore plus de détails.
Vous êtes dans quelle école? L'école du mensonge?
Non, je mens pas. Je suis dans l'école, la réalité. Il y a 40 ans que vous dites la même chose.
Vous avez fini, monsieur.
Et j'ai toujours
eu raison. Reprenez la parole.
Voilà, donc, écoutez, monsieur. Monsieur Reboisse, le taux de recouvrement des impôts en République centrafricaine tourne autour de 8%. Le taux officiel se tourne autour de 8%. Mais la réalité tourne entre les 5-6%. Ça, c'est déjà un manque. Et dans la sous-région, elle est de 17%, la moyenne. Donc vous voyez, le gap à combler. Aujourd'hui, le régime Touadéra est incapable de mobiliser les ressources qui existent. Il y a les ressources en République centrafricaine. Mais ils ne savent pas comment faire pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, la fraude permet aux commerçants véreux, aux industriels véreux, d'empêcher l'État de rentrer dans ses sous. Et ça, il faut que ces gens se le comprennent. Et d'ailleurs, nous allons auditionner.
Non.
Oui, non, vous ne le comprenez pas.
Si, très bien.
Non, pas du
nous
tout.
En avons
parce que les députés,
le
séminaire gouvernemental a été un cirque. Et lorsque nous, députés, membres de la commission finance, avions eu ce budget...
Est-ce que vous avez vu la recommandation?
Attendez, s'il vous plaît. Vos recommandations n'engagent que ceux qui les recommandent. Parce que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir exécuter cela. Nous sommes sur le budget. C'est pas par rapport à votre séminaire gouvernemental, là où on vous a inscrit à l'université de savoir gouverner. Et nous, des députés, membres de la commission finance... Mais quand nous avions vu ce budget, il n'y a pratiquement rien. C'est un budget vide. Et très sincèrement, nous nous sommes mis à décortiquer ce dossier, ce budget. Et ce budget est une coquille vide. Il n'y a pratiquement rien. On ne peut pas gouverner, on ne peut pas développer, on ne peut pas gouverner un pays en s'endettant perpétuellement. Ce que je voulais dire aux citoyens lambda, c'est que quand vous avez une famille à gérer, vous devrez produire ce que vous consommez, acheter ce que vous consommez, mais vous endettez. Je donne l'exemple par rapport au salaire. La dernière fois, pour avoir le salaire, il a fallu au gouvernement de s'endetter auprès du Cameroun à concurrence de 10 milliards. Le gouvernement doit rembourser à 12 milliards. Vous voyez, c'est un taux usurier. Voilà. Et c'est comme ça que ce gouvernement a toujours fonctionné. Et je ne sais pas comment ils vont trouver l'argent pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Déjà, le pétrole, déjà la crise du carburant qui n'est pas résorbée. On va me dire, ça c'est l'Ukraine, ça c'est la guerre avec la Russie. Et déjà, les commerçants, les transporteurs ne peuvent pas travailler. Comment ceux qui ont payé leur patente pour travailler, est-ce qu'ils vont même payer la même valeur que l'année 2022 pour l'année 2023? Non.
Avec la part qui revient au gouvernement, qui est de 139 milliards de francs CFA, cela veut dire que la RCA dépend toujours de ses partenaires.
Vous savez, un pays vit et survit grâce à ses relations de fois bilatérales et multilatérales. Vous savez que dans le développement d'un pays, il y a des concepts qui sont des constances. C'est-à-dire qu'on doit vivre comme ça parce qu'au niveau de la sous-région, au niveau de tel des ensembles auxquels nous appartenons, dicte une manière de fonctionner. Et aussi, dans les relations bilatérales, il y a des choses. Ça dépend de ce que nous faisons et nous mettons dans le contrat pour que ça puisse être dans un rapport gagnant-gagnant. Mais je tiens effectivement à souligner et de dire au député Bendonga de se tenir tranquille. Son inquiétude a été prise en compte. Je vois que si c'était lui qui a été élu président, dans les situations, la circonstance actuelle, il y aura des cessations de paiement. Mais nous sommes un gouvernement qui agit, qui anticipe. Nous sommes dans la proaction. Quel que soit le schéma visant à nous freiner, nous trouverons des moyens nécessaires pour contourner. Et donc, c'est pour moi une manière de constater que le président, le député Bendonga rend hommage, parce que si c'était pas le président Touadéra qui a été élu, que aujourd'hui ceux qui critiquent aura du mal à trouver de ce qu'il faut pour payer le salaire et engager le gouvernement dans les réformes dans laquelle nous sommes.
Pour éclairer la lanterne de monsieur Reboise, je lis textuellement ce que le ministre des Finances, son exposé de motifs du projet de loi de finances 2023 a dit.
N'allez pas nous lire
un paragraphe. Non, c'est pas un paragraphe. Au regard de ce qui précède et à l'absence d'autres financements supplémentaires au cours du dernier trimestre, si les gels ne sont pas opérés sur certaines dépenses primaires non prioritaires à fin décembre 2022, l'État risque de connaître des difficultés à assurer ses charges régaliennes à bonne date.
Voilà.
Ça, c'est pas Bendonga qui le dit.
Oui.
Ça, c'est pas Bendonga qui le dit, mais c'est le ministre des Finances, l'argentier de la République centrafricaine, qui a vu la situation de cessation de paiement de la République centrafricaine et qui a tiré la sonnette d'alarme.
Vous avez mal
pour
compris.
Non, écoutez, je ne sais pas
vous
si...
Vous avez mal
écoutez,
compris.
Écoutez,
laissez-moi
écoutez,
vous intéresser
le contenu. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à
voilà,
ça?
Voilà,
laissez-moi répondre.
Je vous écoute maintenant.
Voilà. Cette sonnette d'alarme avait été tirée lors du séminaire gouvernemental. Et que là, on est un gouvernement responsable. Qu'est-ce que le ministre dit? Il faudrait d'abord abandonner certaines charges de foi inutiles, faire des efforts, faire plus d'économies pour ne pas tomber dans cette situation. Mais là, nous sommes en train de tout faire pour éviter cette situation chaotique.
Voilà. Nous les députés.
Mais nous agissons.
Nous avons fait un travail minutieux et la commission finance a tiré une conclusion. Ce que le ministre a dit est vrai. Le gouvernement, en concoctant ce projet de loi de finances, n'a pas tenu compte de ce qu'a dit le ministre des Finances.
Voilà, abordons le dernier point. Je suis désolé, on est tenu par le temps. Abordons le dernier point du débat. Le président national des associations des taxis-motos a annoncé l'assassinat ciblé contre les conducteurs en.
Vous induisez 3 dollars en erreur.
Non, vous le trompez.
Monsieur, je vous coupe tous deux parce que le temps nous fait défaut. Je vous invite à écouter Martial Nzapayembi, qui est le président de l'association, président national, des associations de taxi-moto de Bangui, au micro de Igor Josquin Sinapaï.
Dans presque tous les quartiers de Bangui, notamment au quartier Katin, Bellevue, Langbashi, Combattant, partout, le phénomène de braquage des taximens moto avec mort d'homme devient récurrent. Même s'ils étaient des bêtes, on n'allait pas leur réserver un traitement de ce genre. Les taximens moto meurent en cascade et on ne comprend pas pourquoi cet acharnement contre eux. Nous avons compté au total 24 personnes tuées à l'intervalle de 3 semaines. Ces actes sont attribués aux mauvais citoyens qui sont contre les conducteurs de moto. Ils les tuent pour prendre leurs engins afin de revendre pour se faire de l'argent. Moi, en tant que président de l'association des taxis moto, je condamne fermement cet acte et je demande au ministère de la Sécurité publique de doubler de vigilance. Car dans un passé récent, nous avons œuvré ensemble à l'approche de la fin d'année pour mettre hors d'état de nuire ces fauteurs de troubles et puis les traduire en justice pour mettre un terme à ce phénomène.
Devant cette montée de violence, des Centrafricains déplorent l'inefficacité des forces de l'ordre à mettre fin à ces braquages. Qu'est-ce qui explique ce relâchement, monsieur le ministre?
Non, il n'y a pas eu de relâchement. Le gouvernement reste constant. Moi, en tant qu'ancien patron de sûreté, je peux déjà vous donner la première approche en termes d'éléments concrets. À chaque fois, à l'approche des fêtes, c'est des situations comme ça ponctuelles qui arrivent. Mais je ne suis pas sûr que c'est dirigé essentiellement contre les taxis-motos. Parce qu'il y a
4 tués en l'espace de 3 semaines.
Je n'ai pas encore fini. Il n'y a pas que les taxis-motos. C'est une situation qui concerne beaucoup plus aussi que les taxis-motos. Mais j'ai reçu aussi le responsable de taxis-motos dans mon bureau il n'y a pas 48 heures. Non, oui, 48 heures. C'est un discours responsable ce qu'il a dit. Il a par le passé travaillé de concert avec les entités de force de sécurité et de défense opérationnelle. Depuis cette situation, l'État s'engage par la voix du ministre de la Sécurité. Nous avons eu des patrouilles, des fois de 1 heure à 3 heures, à chaque fois, parce que c'est souvent dans ces endroits, où là où il y a les coupures d'électricité. Souvent, il y a des gens qui utilisent des pistolets, des faux pistolets, des fois des bois, etc. Des fois avec des cordes, pour essayer de piéger, parce que bon, pour ces voleurs, pilleurs, quand ils trouvent un taxi moto, ce qui est sûr, ils vont trouver l'argent et même peut-être partir avec la moto. Donc, le travail est fait. Il y a eu des arrestations. Des auteurs, des co-auteurs, des complices et complices ont été arrêtés et que le gouvernement, par la voix du ministre de la Sécurité, précisera effectivement dans les jours à venir les conditions, les circonstances, etc. Pour l'instant, l'affaire continue, les dispositions sont prises, nous travaillons, nous restons vigilants parce que nous ne pouvons que être là pour éviter que ce genre de choses-là continuent.
Monsieur Benoît.
L'explication que vient de donner monsieur le ministre ne tient pas le coup. Que selon lui en tant qu'ancien responsable de la sécurité et c'est par rapport aux périodes des fêtes tout. Non.
Non, c'est le constat que j'ai fait par le passé et à chaque fois.
Oui.
Je dis que c'est une situation ponctuelle.
C'est pas une situation ponctuelle, c'est.
Donc c'est une. Oui, mais
attendez, je vous ai laissé parler et laissez-moi aussi parler, monsieur Reboise. C'est pas seulement à l'approche des fêtes. Ce phénomène, c'est pendant toute l'année que les Centrafricains se font tuer, se font massacrer. Si ce n'est pas à Bangui, c'est dans les villes de province.
Donc là, on sort du sujet.
On ne sort pas du sujet.
Non, mais écoutez, c'est une question de sécurité.
Oui.
On sort
là,
du sujet. Quoi
parle
je parle de la
ponctuelle.
De la sécurité. C'est vous qui parlez de la situation ponctuelle.
Prenez
dans
note.
La réalité,
prenez note.
C'est par rapport à la République centrafricaine et même dans son propos liminaire, il a parlé des provinces.
De certaines localités.
Voilà.
De provinces.
C'est pour vous dire que monsieur, je suis centrafricain, je connais les réalités de mon pays. Dans la même nuit, en moins de 30 minutes au quartier Le Plateau, on a abattu les mêmes personnes, on a abattu un soldat des FACA, abattu 2 conducteurs de motocyclettes. Les 2, peut-être ils ont survécu, mais le premier était mort sur le coup. De l'autre côté, vers Sakai, on a tué et jeté comme ça en pâture dans la brousse 2 personnes. Et ce cycle de violence-là, c'est
un peu partout dans le pays. Donc, s'il a été un ancien responsable de la sécurité, c'est qu'il avait très mal travaillé.
Non, au contraire.
N'eût été le cas, mais on aura la sécurité en République centrafricaine et tous les désordres. C'était avec vos idées que vous faisiez cela, non, M. Reboise?
Oui.
Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec Bozizé, avec tout ce qu'il a fait? Admettons que Bozizé revienne aujourd'hui, président de la République. Vous serez encore avec lui? C'est comme ça que vous travaillez.
Non, faux.
Et vous
faux,
voyez,
faux.
Étant ancien responsable de la sécurité, vous avez très mal travaillé. Et c'est la multiplication de tout cela qui a donné ce qui se passe aujourd'hui. Et vous voyez, aujourd'hui, quand vous mettez ensemble des gendarmes avec des policiers, ça, je l'ai relevé récemment, et les gendarmes m'ont dit effectivement que j'ai raison.
Hein?
Vous êtes mal organisé et vous ne connaissez rien sur la sécurité.
Les gendarmes et les policiers posent problème à M. Bendunga qui demande la sécurité. Il ne me pose pas problème
parce que dire... mettre des gendarmes qui sont des militaires.
Vous avez terminé,
avec
M.
Des
Bendunga.
Policiers qui sont des civils pour travailler ensemble. Vous voyez,
vous avez terminé. Allez-y, monsieur.
Vous avez fini. Les gendarmes et les policiers sont des forces de l'ordre. Ils sont tous engagés.
Oui, mais leur mode opérationnel est différent.
Oh, vous comprenez pas grand chose en matière
de sécurité. Je le comprends parce que.
Je vous
dis. Monsieur Bendunga, parce que vous voilà, allez-y.
Il a voulu parler de moi en tant que ancien patron de sûreté. C'est vrai. J'ai eu.
À quel niveau, s'il vous plaît?
S'il vous plaît.
Vous étiez?
J'ai été patron de la sûreté.
Patron comment? Quelle fonction avez-vous?
C'est-à-dire directeur général des renseignements généraux.
Voilà.
Et j'étais à la fois directeur général des renseignements généraux.
Mal orienté, Bozizé. Et Bozizé aujourd'hui.
S'il vous plaît.
Au Tchad, et vous êtes avec moi.
Non, s'il vous plaît.
Calmez-vous, monsieur.
S'il vous plaît. Vous voyez? Moi, je vous connais, mais vous ne me connaissez pas.
Je vous connais, mais vous
non,
ne me
non,
connaissez pas.
Non, non, sur les sujets. Non, non, on ne va pas sortir du sujet. S'il vous plaît, que les restons. On est en train de parler dans le brouhaha et le temps nous fait défaut. Vous reprenez sur la question, le regain de l'insécurité à Bangui. Déjà, vous avez écouté le président de l'association des taximotos qui a déploré en l'espace de 3 semaines, 24 juillet. On veut savoir quelle est la stratégie du gouvernement dans ce sens pour mettre fin à tout cela.
Je vous ai dit, bon, je parle de mon expérience. J'ai dit que j'étais ancien patron de la sûreté. C'est fait. Nous avons vécu par le passé. Il y a aussi une stratégie adaptée à ce genre de recrudescence. Il faut travailler de concert. Avoir un système de renseignement adapté, comme nous avons fait par le passé. Et je tiens aussi au passage à souligner que j'étais patron de sûreté ici à Bangui, mais j'étais aussi le patron du comité de services de sécurité et de renseignement de la CAC, de l'Afrique centrale. C'est quand j'étais parti à l'Union africaine en tant que conseiller juridique et droit de l'homme qu'il y a eu renversement de régime après moi. Mais c'était pas faute d'avoir essayé. J'ai dit, même écrit dans mon livre, j'ai prévenu l'arrivée de tous ces désordres. Je suis parti tête haute. Je voudrais que la lanterne de la conscience nationale soit
élevée. Ma question.
Maintenant, l'expérience que j'ai de cette situation est importante. L'expérience que j'ai de cette situation, c'est de travailler, de mettre en place les entités de forces de sécurité. Oui, actuelles. Les forces de sécurité et de défense opérationnelles, parce que ce type de violence devrait être traité dans l'anticipation, mais en associant toutes les forces de l'ordre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. S'ils pensent qu'un gendarme incontre ça, qui me donne le nom de gendarme, depuis quand un gendarme va vouloir aller se plaindre, alors que les gendarmes travaillent avec la police et l'armée, ils ont même un état-major commun de réflexion qui leur permet d'anticiper et de travailler pour éradiquer cette menace.
Vous savez, quand M. Reboise a vu que la carotte était cuite, il a pris la tangente pour aller dans la structure qu'il a citée.
Non, mais faux.
Et ben, voilà. Mais c'était avec Bozizé.
Non, faux.
C'était avec Bozizé. Et Bozizé était chassé du pouvoir.
Mais je suis parti à l'Union africaine en 2010.
Oui, mais quand tu as vu que les choses allaient mal, Bozizé a été chassé du pouvoir en 2011.
Oui.
Vous voyez ce que c'est?
Non, non.
C'est quelqu'un,
non, au contraire, s'il m'avait écouté.
C'est quelqu'un qui est très malin, rusé comme Didier.
Bon, maintenant,
mettre à nu.
Non, faux.
Sur cette question de sécurité, aujourd'hui, il y a encore de morts d'hommes et à l'approche même de la fête de fin d'année et surtout en saison sèche, le calvaire des centrafricains de l'intérieur du pays augmente. Les groupes armés sont de plus en plus actifs. Pourquoi le gouvernement ne prend-il pas des dispositions pour éviter ce genre de situation
des groupes armés. Je pense que nous venons de loin. Comme vous savez, nous avons eu une crise. Nous avons été marqués par, comme je dis souvent, les multiples implosions des stabilités politiques. Bien sûr que nous parachevons aujourd'hui, à l'heure actuelle, la reconquête de notre territoire. Mais il y a la deuxième phase qui est celle de redéploiement de l'autorité de l'État. Parce que quand vous savez, quand les rebelles prennent des pays, ils s'installent souvent dans les hôpitaux, dans les écoles. Il n'y a pas de casernes militaires, etc. Avec l'armée de garnison, avec le redéploiement de l'autorité de l'État, l'État doit fonctionner à plein temps dans les arrière-pays pour permettre de traiter tous les problèmes, que ce soit le problème sanitaire, le problème d'insécurité, etc. Et donc ça, c'est l'objectif du gouvernement et nous sommes en train de faire. Mais il y a aussi cette crise, c'était aussi une crise de l'effondrement de certaines valeurs, parce qu'il y a des gens qui ont pris souvent l'habitude de faire recours, développer ce culte de réflexe de la guerre pour pouvoir, au retour, avoir quelque chose. Et donc, nous sommes en train de travailler cas par cas. Ceux, par exemple, qui rentrent dans la rébellion, pour beaucoup, de coutume, les gens ne rentrent pas dans la rébellion par adhésion à une idéologie quelconque. Parce que souvent, quand tu arrives dans un village et qu'il y a deux ou trois enfants par famille, souvent, la famille elle-même demande à un des garçons d'aller là-bas, justement, pour le garçon rentre souvent pour protéger sa famille. Mais c'est pas par adhésion à une... Mais quand le territoire est repris, à ce moment-là, il faudrait trouver un moyen, souvent, de s'attaquer au problème de l'éducation, qui est à la base de tout, les manques de civisme qui amènent des comportements déviants, qui peuvent pousser à ces genres de crises. Nous devons travailler parce que dans les pays ou les villes où l'État ne contrôlait presque rien. Vous savez, dans certains villages, pour être à l'école, même pour la première fois, il faut avoir 10 ans pour aller à l'école. Parce que tu ne peux pas dire à un enfant de 10 ans ou de 5 ans d'aller à l'école la plus proche qui a 10 kilomètres, qui a 5 kilomètres. Ça, c'est des réalités de notre pays. Mais ceux qui n'ont pas pu aller à l'école quand ils avaient 10 ans dans les arrière-pays où le territoire était contrôlé, ont 20 ans aujourd'hui, n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Et ceux-là, pour survivre, souvent, posent des actes, justement, pour demander...
Et ce sont eux qui causent actuellement l'insécurité dans certaines localités, selon vous ?
Non, je dis c'est en partie. Sinon, le DDR continue de suivre son chemin. Le DDR, c'est quoi ? C'est pour identifier et aussi procéder au retour de certains combattants étrangers, etc. Donc tout ça là, c'est ce que nous devons commencer à faire. Et nous avons déjà commencé à faire et nous allons le faire avec le concours effectivement de la population locale, des ONG et toutes
Monsieur
les entités
Bendunga.
Qui sont là pour nous aider à avancer.
Vraiment, ça me fait pitié d'écouter quelqu'un qui se dit ministre
Je suis
de,
ministre
la
de la République. Je
oui, quelqu'un qui voilà. se dit ministre de la République, tenir ce langage. C'est que l'État a failli. L'État n'existe pas.
Mais vous êtes en faillite depuis 40 ans.
Et c'est vous. Vous notez, vous le laissez continuer.
Vous avez quel âge, monsieur Reboiz? Vous êtes là depuis. Vous étiez, voilà. Vous étiez là avec Bozizé. Vous l'avez mis dans la merde.
Non, faux.
Et vous avez fui. Vous êtes revenu.
Monsieur, vous revenez
voilà.
sur le sujet au lieu d'aller.
Par rapport à ce sujet-là, écoutez, lorsqu'un gouvernement recrute en son sein les responsables des groupes armés, les incorporent dans l'armée tout et tout. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir la paix lorsque même le ministre de la Justice, c'est un Séléka? Tout ce monde-là, tous les Sélékas sont au gouvernement, tous les Sélékas sont dans l'armée, tous les Sélékas sont dans la police, dans la gendarmerie. Mais comment voulez-vous restaurer la paix dans un pays où les gens sont là, ils vous écoutent, le soir ils appellent leurs gens sur le chantier et travail. Donc je pense que l'approche de Touadéra, vous savez, j'ai dit, j'apprécie...
Quand vous étiez ministre de la Séléka, Touadéra n'était pas président, Touadéra était en exil.
J'étais ministre de l'opposition et j'ai combattu la Séléka.
Il n'y avait pas d'opposition.
Mais puisque vous avez l'habitude d'aller toujours à la mangeoire,
non,
mais
faut,
vous n'allez pas aller à la mangeoire.
Mais j'ai pas le temps.
Arrêtez. Voilà. Par rapport à l'insécurité qui prévaut dans l'arrière-pays, c'est nous-mêmes qui entretenons ces gens. Ils sont même dans l'armée, ils sont partout, à telle enseigne que aujourd'hui, le régime Touadéra se sécurise grâce aux Russes et aux Rwandais et laisse l'arrière-pays en pâture à ces gens. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse avoir la paix? Comment voulez-vous que nous puissions réussir à remettre ce pays sur les rails? Si vous voyez même la sécurité rapprochée de Touadéra, ce sont les Russes, après les Rwandais et après les Faka viennent de loin. S'il est incapable de se sécuriser lui-même, de sécuriser le pays et de se faire sécuriser par les Russes et par les Rwandais, eh bien, sachez que le pays marchera toujours mal.
D'abord, je tiens seulement à noter que le général Service n'est pas de nationalité russe ni rwandais. Le colonel Wananga n'est pas de nationalité russe ni rwandais. Ce que les Rwandais et les Russes font, c'est ce que nous devrions faire depuis. Pourquoi? Parce que...
Mais toi, Dera...
Non, laissez-moi
il
finir.
Il est à ses 7 ans. Il est à ses 7 ans. Comment n'a-t-il pas pu sécuriser son pouvoir et pouvoir faire appel à l'extérieur?
Vous voulez laisser répondre.
Le problème, allez-y. C'est qu'il y a certaines menaces qui ne se gèrent pas forcément à l'intérieur. Il y a des moyens de lutte qui, des fois, nécessitent le partage de l'expérience.
Mais quand il a postulé pour la présidence, il savait pertinemment que on avait ce problème. Et il a dit qu'il avait la solution au problème.
Mais c'est la solution.
Et
que
il n'a pas réussi 7 ans aujourd'hui.
Écoutez-moi, je vais vous donner la solution. Vous voulez la solution?
Oui, allez-y. Quelques secondes parce que le temps...
Faites au moins semblant de comprendre, M. Benjamin.
Je vous comprends.
Voilà. Et donc, moi, l'échec que nous avons eu par le passé, nous avons eu la MINUSCA, nous avons eu cette coalition internationale qui venait, mais qui travaillait effectivement sur le sans FACA. Avec les Russes et les FACA, parler des Russes et des Rwandais sans les FACA, pour moi, c'est une insulte. Nous avons une armée nationale qui monte en puissance. La direction stratégique avec les entités russes et rwandais, etc., des Nations Unies, avec les FACA, sont partagées et le secret des opérations sont mis en commun. Aujourd'hui, nous gagnons plus en renseignement à cause des FACA. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui continuent de tomber, de mourir pour la patrie. Alors, je ne permettrai pas qu'un élu de la nation puisse méconnaître le rôle
aujourd'hui
de sécurité et de défense. Ça, je refuse totalement.
Non, il m'a très mal compris.
Non, j'ai très...
Laissez-moi lui répondre maintenant. Aujourd'hui, ce sont les FACA qui défendent le peuple centrafricain.
Ben voilà.
Avec très peu de moyens.
Voilà.
Les Russes se mettent à l'écart.
Vous avez changé d'avis.
Non, je ne change pas d'avis. Voilà. J'ai toujours dit cela. Et j'ai toujours dit ma divergence avec Touadéra, c'est de donner les moyens qu'on donne aux Russes, les moyens qu'on donne aux Rwandais, aux FACA, et ces gens-là nettoieront la République centrafricaine en moins de 6 mois. Aujourd'hui, les FACA n'ont que des petites armes, n'ont pas assez de moyens. Est-ce que vous amenez de l'eau minérale à nos soldats aux frontières? Mais ce sont les Russes. Vous donnez ça aux Russes. Les FACA ont combien de véhicules? Parfois, là où ils sont, j'ai pas mal d'informations dessus. Ils n'ont même pas de munitions. Mais ces garçons-là se battent corps et âme pour restaurer la paix.
Les FACA, Touadéra n'a pas
remis l'armée.
Ce
sont nos soldats eux-mêmes.
Il
n'a pas donné les armes qu'il faut à nos soldats.
Non.
Et c'est avec leurs moyens de bord, la faim,
Comment vous appelez ces moyens de bord, toi?
Les moyens de bord.
Bambou de Chine.
Mais quand ils n'ont pas un chargeur, lorsqu'ils finissent ce chargeur ou deux chargeurs, c'est avec quoi qu'ils
se battent. Monsieur Leboisse, et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui.
Je reconnais que les FACA,
pas les FACA de Touadéra, mais les FACA
de
Touadéra sont les Russes, sont les Rwandais.
Monsieur Bendunga, je vous coupe, monsieur Leboisse. Respectez la police du débat et je vous dis, c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui. Nous avions passé en revue 3 grands points dans ce débat. L'économie centrafricaine avec un budget de 240 milliards de francs CFA pour l'exercice 2023, l'exigence de l'opposition démocratique pour la réforme profonde de l'autorité nationale des élections et la résurgence de l'insécurité et surtout du braquage dans Bangui où le bureau de l'association des taxis-motos a recensé 24 conducteurs de taxis-motos tués en l'espace de 3 semaines seulement à Bangui. Merci à nos invités d'être venus. Merci à vous, Monsieur Aristide Bignan-Reboisse, ministre de la Jeunesse et des Sports, représentant du gouvernement dans ce débat, et Joseph Bendunga, député de Bimbo 3 et membre de l'opposition démocratique. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir.